évidemment, Gina, soyez les bienvenus avec Elena Kaloubouneti.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour.
Albert Albou.
Bonjour.
Monsieur Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Alexis Le Rossignol.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Et vos invités, Monsieur Brécourt et Monsieur Lelouch.
Bravo.
Philippe, David. Philippe Lelouch et David Brécourt, merci d'être avec nous.
Oh, quel plaisir,
on est ravis. Hein.
Pour ouais. nous parler de cette pièce qui fait du mal quand on voit le titre, mais qui fait du bien quand on voit la pièce. Le temps qui nous reste, enfin le temps qui reste. Mais c'est vrai que cette ouais. phrase, l'une des phrases les plus violentes que je n'ai jamais vues au théâtre, elle vient de vous, Philippe Lelouch.
Ouais.
Combien d'été nous reste-t-il à vivre?
Combien de mois d'août?
Combien de mois d'août?
C'est complètement différent.
C'est traumatisant, oui.
Traumatisant.
Ah ouais. Et on s'en remet toujours pas, en fait.
Elle vient d'où, cette phrase?
Mais en fait, j'étais un été en vacances avec Christian Vadim, ce qui nous arrive de se voir en dehors.
Pas là,
il n'était pas là. Parce que lui, dans la vie, on ne le fréquente pas. Parce que autant j'ai de l'admiration pour l'artiste, mais l'humain est un...
C'est pas là.
Et donc, on était avec Christian en vacances en moto, comme ça, et on s'est posé. On disait, tu sais, ces soirées où il fait si bon, là, où on se demande à qui on pourrait demander pardon, tellement le temps est bon et agréable.
Ça vous arrive, ça?
Oui, ça, voilà. Ça m'arrive, ouais.
Ça se parle pas du tout à Nagui. Hein, pas du tout, mais pas une seconde. Hein.
En même temps, c'est pas de moi, c'est de Jules Renard. Hein. Faut remettre...
Le temps qui reste?
Non, cette phrase.
Ah, bon,
il faisait si bon ce soir que j'étais en train de me demander à qui je pouvais demander pardon. Je
trouve c'est
ça magnifique, voilà. Et donc, on était là en se disant, qu'est-ce que c'est bien l'été? Toute l'année, on attend l'été. Et là, il m'est venue cette phrase en disant, quand il pense combien de mois d'août il nous reste? Combien on va, encore il nous reste d'été à profiter en étant bien, etc.
Enfin,
et là, c'était,
en forme,
ça a été le début de la pièce.
En oui, en forme.
Bah oui, bah, c'est oui, pour passer l'été à la fenêtre des Hespérides, c'est moyen, quoi. Ah, forcément.
Oui, c'est ce qui est dit également dans la pièce. Ouais. Nous allons parler donc de cette pièce qui démarre le 19 octobre. Ça sera au théâtre de la Madeleine, théâtre que vous connaissez bien.
Ouais.
Vous serez sur scène ensemble. On va d'abord parler et essayer de découvrir si toute la bande vous connaît bien ou pas. Commençons déjà par Philippe Lelouch. Dites-moi s'il vous plaît, sur Philippe Lelouch, pourquoi Philippe Lelouch s'est-il retrouvé un jour en garde à vue?
Excès de vitesse, alcool,
pouvoir fumer
dans le jeu.
Exactement.
J'étais là.
Bien joué.
Il était là, j'étais témoin.
Alexis Le Rossignol a raison.
Avec lequel t'as dit ça?
Est-ce qu'on compte les points? Parce que là, j'en
ouais,
ai pas mal.
On fait un bilan à Noël, puis après au mois de juin. C'était où?
C'était à l'aéroport de Roissy. Je revenais de Russie avec David, où nous avions été voir ma pièce adaptée, la première, Le Jeu de la Vérité. Et quand je suis
en russe.
En russe.
Ouais. Bah oui, en Russie, c'est en russe.
Qui joue encore, hein.
Pas du tout, t'as des spectacles en français.
Ça joue encore.
Tu l'as sorti un peu.
Qu'il connaît bien.
T'as des spectacles en français. Ça peut être en français. Ah ouais,
c'est ça. Aucune limite, toi.
Évidemment.
Évidemment.
Laissez-le parler.
Pardon.
Mais non, mais continuez de vous amuser.
Donc, alors, à l'aéroport.
Roissy.
Oui, à Roissy, voilà. Et puis, il y avait un type qui avait oublié sa valise et ça faisait à peu près trois quarts d'heure qu'il réclamait, ils étaient pas très énervés sur le plan Vigipirate en disant le propriétaire de la valise. Mais pendant ce temps-là, tous les gens étaient bloqués, tous les gens qui arrivaient de l'étranger étaient bloqués en zone internationale, là. Et il y a une dame russe qui est venue me demander si on avait le droit de fumer, et j'étais quand même, j'avais envie de fumer un arbre. Et je lui ai dit non, on n'a pas le droit.
Mais vous vapotez?
Oui, je vapote. Ouais,
donc
mais je fais les deux. Non, je fais ça quand je peux pas fumer des vrais clubs.
D'accord.
Chiqué,
voilà. Oui, blague de vieux. On fait des blagues de 1927 ici. Allons-y.
Vous chiquez. Moi, je trouve ça
amusé quand même.
Oui.
Bravo, Maréchal.
Et donc, voilà, et je l'ai emmené très loin dans l'aéroport, près d'une machine à café. Vraiment, on était très loin des gens. Et il y a une dame qui est passée qui m'a dénoncé. Ça existe encore. Et donc, il y a.
Ça existera toujours.
Bienvenue à Roissy. Il y a un type qui est venu un quart d'heure plus tard, un flic avec elle, et qui s'en est pris à David. Et c'était extrêmement drôle en disant, vous fumiez, monsieur. Et
moi,
j'ai dit, non, il fumait pas. Et comme un con, au lieu d'attendre de voir à quel moment David allait me dénoncer, ce qui aurait été jouissif, j'ai pris les devants et je lui ai dit, non, c'est pas lui qui fumait, c'est moi.
Sacrifice.
Et le mec me dit, suivez-moi au poste. Donc, je lui ai dit, j'ai fumé une cigarette, voilà mon passeport, c'est pas grave.
Qu'est-ce qu'on risque dans ces cas-là?
J'ai fait 7 heures de garde à vue quand même.
Non,
7 heures pour une clope.
Alors,
il est parti avec les menottes.
Il m'a mis les menottes et tout. Non, mais.
Bah ouais,
pour
vous pouvez fumer pendant la garde à vue.
Mais il faut que je remercie ce monsieur. Parce que d'une certaine façon, je lui dois beaucoup, puisque c'est dans cette cellule que j'ai l'idée de boire, fumer et conduire vite. Puisque à ce moment-là, je me suis dit, si on commence à mettre les mecs en tôle parce qu'ils fument une clope, et là m'est venue l'idée de la pièce. Une fois la colère passée, parce que j'ai eu une bonne demi-heure où j'étais
vert.
Ouais, Hannibal Lecter.
On est rouge en général en colère.
Et voilà.
Et Hulk.
Vert, c'est Hulk.
Ouais, voilà. Et Hulk.
Et Hulk.
Ah, Hulk. Ouais, ouais. Ah, merde. Ouais. Alors, il y a l'exposition rayon gamin qui joue un petit peu. Ouais. C'est parce que j'aime bien être précis.
Mais... Ah, mais c'est vrai. Que toi, t'es un...
Pourquoi, t'es calé, David, hein, pourquoi David Brécourt, lui, s'est-il retrouvé un jour en garde à vue aussi?
C'est pas vrai.
Je te jure.
C'est incroyable.
On a deux délinquants.
Insulte à agent. Non, c'est pas son genre.
Exhibitionnisme.
Non. Ça pourrait être le cas, ouais. Meurtre, ah, pas loin. Non, c'est pas
ça. Excès de vitesse, alcool. Alcool,
oui.
État d'ébriété.
Oui.
Oh, ah, oui. Sur, allez, le trottoir.
À vélo.
À vélo.
Ah, oh, bah là là.
Ah, mais vous êtes deux champions, en fait.
Ah, ouais. Non, mais on est deux, c'est très fort, hein.
Mais en même temps, c'est
très,
vrai,
très fort,
ouais.
Ouais. Ah,
bah, ouais. Comment se fait contrôler quand on est sur un vélo?
Mais non, mais moi, je la connais parce que j'étais là aussi.
Ah.
C'est à croire qu'on vit ensemble, là.
Mais il n'y a pas de mal.
Mais on est, on vit, on vit.
Vous tirez vers le haut, quand même.
On était ensemble à la soirée. C'était une soirée à
Paris. Non,
si,
c'était une autre soirée.
T'as planqué ton vélo.
Mais non, en vélo, c'était... Non, je rentrais...
Ah,
non,
parce qu'il s'est fait serrer.
C'était lui, le vélo.
Non, j'avais pas de lumière. Et voilà, je me suis fait... Les mecs m'ont dit, attendez, venez ici. Ouh là là, mais tu vous sentais un peu... Je dis, oui, je venais d'enterrer mon grand-père, d'ailleurs, en plus. Donc j'avais picolé un coup et le mec m'a dit oh, non mais je vous laisse pas rentrer. Je suis vraiment à 5 mètres de chez moi. Donc c'est bon, il y a pas de problème, et puis je pars, et les deux mecs sont venus me chercher, ils m'ont embarqué, et j'ai passé la nuit à Saint-Fargeau-Pontierry, je m'en souviens.
Et comment se vient ces missions avec deux délinquants?
Ouais. Attention, il y a du lourd en casier judiciaire.
À côté de Balkany, c'est un petit joueur, hein.
Comment Philippe Lelouch s'est-il débrouillé pour faire sauter 6 mois de service militaire?
Il est passé pour fou?
Non.
Et il a dit qu'il était le fils de Claude Lelouch.
Exactement.
Ah oui, c'est vrai.
Il y en a qui se renseignent.
Il l'a déjà raconté.
Alors, ce qui est vrai, c'est-à-dire que mon père s'appelait Claude. Voilà.
Non, mais c'est
vrai. C'est vrai. Donc Gilles et moi, Gilles,
avec
mon petit frère,
ailes.
Gilles Lelouch, et moi, on a un papa qui s'appelait Claude Lelouch. Voilà, donc ce qui veut dire que à l'époque où
tu n'as pas vraiment menti, tu veux dire.
Je n'ai pas menti du tout. On dit, vous êtes, alors à l'armée, il se trouve que à l'époque Internet n'existait pas. Putain, merde. Oui, c'était en 90, donc forcément il n'y avait pas. Voilà, et donc c'était très facile. Les gens ne connaissaient pas l'orthographe différente de Claude.
Un L, deux L.
Un L et deux L, ouais, pour nous. Et puis voilà, et donc très vite le bruit s'est répandu dans la caserne que j'étais le fils du metteur en scène, ce que j'ai fait, et j'ai été voir un psy au bout de 6 mois d'armée, parce que j'en avais un peu marre là, et je lui ai dit, écoutez, on me harcèle, on me demande des places de cinéma, enfin j'ai raconté n'importe quoi, et le mec, et je dis, pourtant je veux être comme tout le monde, je fais mon service militaire et tout, et le mec est très compréhensif, mais je suis passé à côté de la correctionnelle, parce que ce type là me fait donc le papier dont j'avais besoin pour que j'aille me reposer, mais il me dit, je peux vous donner une lettre? Alors je dis, oui bien sûr. Il me dit, non, parce que la femme de votre mari, de votre père, en fait, j'étais à l'école en psy avec sa sœur. À l'époque, il était avec Marie-Sophie et Claude, et la sœur de Marie-Sophie avait fait psy, et c'était un copain de sa promo.
Et comment vous assumez le mensonge?
J'ai dit, mais bien sûr, je vais lui donner. Voilà, elle ne l'a jamais vu, hein, cette lettre. Voilà.
Question sur David Grand. David Brécourt, pour quel métier lui a-t-on proposé le plus souvent des rôles dans sa carrière? Généralement, on lui propose
mannequin,
des rôles de
souteneur,
médecin. Oui, absolument, médecin. Gérant médecin.
Ah ouais.
Une tête de toubib.
Bah oui, ça c'est. Oui, bah oui, c'est fait.
C'est quoi une tête de toubib? Je ne comprends pas la définition de.
Bah
quand
non, mais
quand
c'est
je vous vois, quand je vois Michel Simès, je me dis, bon, il y a un qui est beau, l'autre qui est médecin.
Non, mais c'est la série Sous le Soleil, quoi.
Ah, voilà,
c'est
ça.
À cause de ça,
ah,
oui.
Ouais.
Bien sûr,
ouais.
Qui a.
Dans une interview en 2011, vous dites, c'est pénible, voilà. C'est toujours des rôles de beaux gosses qu'on propose.
Ah oui.
Et généralement,
ça, oui.
En, blouse, en blouse blanche.
Mais ça, c'était en 2005, hein.
Cette fausse modestie qui consiste à dire on me propose que des rôles de beau
gosse. Ouais,
ouais, tu connais pas ça. Ouais,
non, jamais.
crois-moi, c'est pesant.
Philippe Lelouch a un petit côté macho, un gros côté macho dans son écriture. Lequel? On peut remarquer qu'il est macho dans son écriture. Pourquoi?
Il y a peu de rôles féminins, non?
Alors ça, c'est le cas dans la pièce Le temps qui reste, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier?
Il conjugue pas.
C'est toujours le même prénom de femme.
Même quand il écrit pour des personnages féminins.
Pardon?
Il accorde pas même quand il écrit.
Il est participé toujours. Non.
La recrudescence du mot salope.
Non.
elles sont toujours à
toi. Toi, tu vas avoir des soucis, toi. Tu vas avoir leurs actuelles. Ils vont pas te rater.
Parlez pas de mes amis comme ça me gêne.
Non. Quand il écrit des pièces, on se dit, ah, un petit côté macho.
Côté macho quand on écrit.
Ah, ça vous. Ah, mais rien.
Les femmes parlent pas tout de suite dans le premier.
C'est pas,
la première
loin.
Partie du.
Pas loin.
Elles ont peu de dialogue.
Les femmes sont dans la cuisine.
Non.
Mais elles ont peu de dialogue.
Elles parlent mal français.
Elles ont du dialogue, mais.
Mais c'est très.
Toujours après les mecs.
Non.
Elles n'ont pas de nom.
Non.
Ils sont interrompus par les gars.
Non.
Elles se font toujours tuer.
Non.
Oh là là.
C'était pas loin.
Elles se taisent quand les hommes parlent.
C'était, David, il est d'accord
pour la parole. Pardon ?
Elles sont souvent interrompues ?
Non.
Elles ont peu de texte, peu de...
Non, elles ont du texte. Mais c'est des pièces comiques. Donc...
Elles sont cruches un peu.
En ce bordel.
C'est jamais elles qui créent la blague.
Qui ont le ressort comique.
Exactement. Exactement. C'est rarement... Vous gardez les vannes pour les mecs.
Non, je le fais pas exprès. C'est... Non mais sincèrement, ouais. je le fais vraiment
c'est
pas exprès.
C'est le principe de la misogynie.
C'est-à-dire ouais. que
c'est quand, non, quand on l'a en soi, on s'en rend pas compte.
Non, c'est pas.
Je sais pas ce que ça veut dire moi. Je sais pas ce que ça veut dire la misogynie. Voilà, on a dit ça de Guitry, il y avait pas plus grand amateur de femmes, etc. Donc moi je sais pas ce que ça veut dire la misogynie vraiment. Sincèrement.
Mais l'un n'empêche pas l'autre en fait.
Mais oui, voilà, oui, probablement.
Mais vice versa.
Mais en réalité, non, c'est pas. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à écrire des rôles de un peu angéliques pour les femmes de. Non mais parce que j'ai cette tendance à penser que l'amitié, mais je vais pas me faire des potes, hein, mais l'amitié plus une vertu masculine, voilà. C'est mon.
C'est sûr que vous allez pas vous faire des potes là.
Non, mais c'est vrai.
Pourquoi ça?
Parce que je connais plus de bandes de garçons comme ça sur la longueur.
Faux.
Oui, d'accord, ok.
Non, mais je t'assure.
Mais je peux me tromper.
Mais il y a des filles qui sont des vraies copines à vie.
Mais ça sûrement.
Ouais. Bon, c'est moi qui m'y colle. Je suis d'accord avec vous. Faut un soutien.
Bah, d'accord. Okay. Quel est le rêve professionnel de David Bricourt? Rêve professionnel.
Moi, bon cœur.
Jouer, chanter, danser.
Non. Jouer le rôle d'un malade.
Danser surtout pas.
Jouer le
aux
rôle d'un malade.
Aller aux États-Unis.
Non.
Et réaliser.
Faire carrière en Chine.
Un film. Écrire un.
Jouer au
scénario.
Cinéma. Plus alors, de rôles au cinéma.
Ça a rapport avec son métier, évidemment. Il ouais. S'il devait changer de métier. Toujours dans le monde de la comédie,
metteur en scène,
dialoguiste, éclairagiste,
costumier,
non,
chanteuse,
maquilleur,
non,
chanteuse,
patron de théâtre,
pas loin mais non,
danseuse, régisseur,
produire,
non, non plus,
éclairagiste,
qu'est-ce qu'il voudrait faire,
ouvreuse,
c'est plus dans la,
ouais mais c'est changer de registre. Voilà.
Non, c'est toujours dans le théâtre.
Comédie. Oui, bah ouais. Donc changer de registre.
Faire des pièces classiques.
Non,
à récupérer la direction de.
Dans une grande précise.
Non, c'est dans le répertoire en fait.
Ça, pourquoi
c'est
pas
le répertoire.
Non, vous trouvez pas.
Ah bon.
C'est quoi, monter une école de théâtre.
Ah, oui. Je pensais que ça aurait été.
Pas ça. Non, parce que son rêve, c'est de jouer à la comédie française.
C'est de rentrer au français.
C'est ce que j'allais dire.
Ouais. C'est un peu mon but, ouais. Diriger une école, oui. M'occuper de jeunes, oui. Ouais, c'est un peu.
Transmettre.
Ouais, transmettre, exactement. J'ai très envie de ça.
Vous pensez être pédagogue?
Oui. Ouais, complètement.
Pas du tout.
Si.
Philippe, pas du tout.
Non, mais il se fout de ma gueule quand je fais une mise en scène. Il me dit, on va venir voir ta mise en scène, David. on va venir voir. Je pense qu'on va
c'est
bien
rigoler. C'est que quand David me dit, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille ensemble, le titre est pas bon, c'est bon signe. Il m'a dit ça pour boire, fumer, conduire vite. Il me dit, j'aime pas
boire,
le
fumer, conduire vite. J'ai jamais aimé ce titre. Je sais pas pourquoi. Je trouvais que ça méritait autre chose.
Bah, vu l'état dans lequel vous êtes à vélo, oui, je comprends. Ça vous parle pas. Ça vous parle pas beaucoup. Parlons du temps qui reste. Donc, cette pièce, 60 représentations exceptionnelles au Théâtre de la Madeleine. Philippe Lelouch, Christian Vadim, David Bricourt, Mélanie Page, ma douce et tendre épouse. Mais c'est pas pour ça que vous êtes là. Vous êtes là parce
que. C'est pour ça qu'elle est pas là.
C'est pour ça qu'elle est pas là. C'est ça.
Et je le regrette bien.
Bah nous aussi. Ah ouais, ça y aurait eu des malheureusement
ça
pour moi.
Tellement compliqué.
Moi,
parce
ça
que si dans le couple il y a quelqu'un de bien. Enfin bon.
c'est la meilleure partie de lui.
C'est vrai, c'est son préfet chez la guise et sa femme en général.
On peut parler de la pièce.
Est-ce qu'on peut faire 5 secondes sur Mélanie ou
pas? On peut faire 5 secondes sur Mélanie, ça mérite.
Bah voilà, merci, vas-y Philippe.
D'abord, elle m'a dit de toi que tu étais sublime. Voilà, elle m'a dit
Leïla.
Ça.
Non mais Leïla. On est à la radio, les gens savent pas de qui tu parles.
De Leïla, pardon. De Leïla, elle a dit c'est une des filles les plus sublimes que je connaisse. Donc voilà, ça je t'envoie ce compliment.
Tu vois que ça existe
pas.
Non mais
c'est ouais, au-delà du plaisir de jouer avec la femme de Nagui, c'est surtout une comédienne extraordinaire, vraiment.
C'est surtout pas que la femme, c'est pas
non,
que ma femme.
Non, c'est pas lié du tout, c'est vraiment...
Et de moins en moins, je crois.
C'est pour vous
elle m'a dit ça ce matin. Bon, ouais,
mais non, mais ça marche à l'envers. Moi, je précise toujours, je suis dans l'émission de Nagui, le mari de Mélanie Page. Sinon, les gens ne situent pas, en fait.
Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment pour nous une découverte formidable, parce que c'est vrai que nous, on se connaît très très bien...
Tous les trois
depuis plusieurs des années maintenant.
Et que vous aviez joué cette pièce avec Noémie Elbaz.
On a joué cette pièce avec Noémie Elbaz et que tout à coup Mélanie arrive en plus répéter là, parce que on est encore dans les répétitions avec trois mecs qui se connaissent très bien, qui connaissent la pièce par cœur. Il faut trouver sa place au milieu de cette bande de copains et puis comme actrice. Et alors je dois dire qu'elle le fait merveilleusement.
Elle est très à l'aise.
Excessivement douée.
Moi, à l'aise.
C'est une vraie découverte pour moi, vraiment.
Ouais. Et vous avez joué récemment ensemble, David Brécourt, dans
La deuxième pièce. Avec Bruno Solo. C'était vraiment. C'est là où on s'est vraiment découvert sur scène. Et non, je la trouve étonnamment, mais elle est très à l'aise. C'est pas facile de. Je dis pas ça pour nous lancer des fleurs, mais c'est pas facile de jouer avec nous les trois, quoi, d'arriver. Il y a une
parce
fluidité
y a beaucoup
entre
de
nous.
Complicité, vous connaissez depuis très longtemps.
On se connaît depuis très longtemps, et puis il y a un truc magique entre nous. Et donc c'est très difficile de rentrer là-dedans. Et Mélanie est.
Vous avez trouvé un bon pote, je pense.
Avec Nagui, hein.
Exactement.
Avec Nagui, elle a un entraînement.
Ah, c'est mon meilleur pote. Moi aussi, c'est mon meilleur pote. Voilà. Parlons donc de cette merci pour elle, en tout cas, et j'en pense encore plus d'ailleurs.
Si ça se trouve, elle écoute même.
Le temps, on n'est pas à l'abri. Temps qui reste, donc, le point de départ est un deuil. Ouais. C'est-à-dire que le personnage joué par Mélanie Page se retrouve donc veuve. Ouais. Et les trois potes.
C'est un vieux rêve chez Mélanie. C'est un vieux rêve.
Je vais pas y aller.
Elle s'est battue pour cette pièce.
Ah, ça. Tu m'étonnes qu'elle a kiffé le rôle.
Elle a dit, je me suis totalement identifié. Voilà, c'est un des premiers trucs qu'elle m'a dit.
J'aimerais tellement m'investir plus.
Il paraît qu'elle ne quitte pas le rôle, même quand elle sort de scène.
Donc.
Vas-y avec ça.
Tu vas manger.
En fait, on ne va pas l'aider aujourd'hui. Moi, je propose, on le laisse faire tout seul.
Elle enterre son mari. Et les trois potes arrivent. Et les trois copains du mari ne comprennent pas qu'elle soit. C'est pas une question de veuve joyeuse, mais qu'elle ne soit pas plus effondrée que ça.
Oui, elle va nous expliquer d'ailleurs. Et c'est très difficile à comprendre pour trois copains qui sont atterrés évidemment d'avoir enterré leur pote et elle a l'air de vivre ça assez sereinement. Et elle va passer un bon bout de temps à nous expliquer pourquoi, comment, etc. Et donc c'est un point de départ de se dire en fait elle essaye de nous faire croire que c'est une divorcée qui a réussi. Hein, c'est-à-dire que
c'est ça.
Voilà.
Elle vous annonce que de toute façon le couple
allait mal,
qu'ils allaient se séparer,
qu'elle avait fait son deuil de cette relation depuis un bout de temps et qu'est arrivée la mort au milieu de ça, mais que elle
que ça va même simplifier d'ailleurs les droits de succession.
Les droits de succession,
l'esprit pratique.
C'est une salvade.
Comme quoi, elle en a des vannes.
Comme quoi, le machisme, hein,
pas du tout misogyne, n'importe quoi.
Et ça va renvoyer une image à chacun des potes en disant. Au-delà de la mort de leur ami, la fragilité finalement de tous les rapports et le carpe diem aussi, on n'a plus beaucoup, il ne nous reste plus beaucoup de temps à vivre. Ouais. Profitons de chaque minute et de chaque moment.
C'est-à-dire qu'en général, à 50 ans, puisque c'est l'âge des protagonistes, à 50 ans, c'est on commence à faire un sérieux point d'où on en est. Hein. C'est-à-dire celui qui ne l'a pas fait avant, il faut la vie qu'il
s'y mette.
Il est en retard, mais là, on est normalement, pour les gens bien heureux et bien portants, en tout cas, on est installé dans sa carrière, dans sa famille, et c'est un moment où on fait un point. Et moi, j'ai vu ça chez mes copains, c'est bizarre. À 50 ans, ils ont tous fait la crise qu'autrefois on appelait la crise de la quarantaine, mais je pense que c'est propre à notre génération. On a pris 10 ans
c'est
de
décalé,
retard,
ouais.
Surtout.
Ouais.
Voilà. Et que soit c'est le boulot qui est remis en question, soit c'est le couple. Parce que c'est fini, il n'y a plus le temps pour le. Il faut profiter de. Voilà, de
et ils ont
ensemble.
Chacun un petit secret, ils ont chacun une casserole justement, les autres potes ne connaissent pas. De la même manière d'ailleurs que celui qui est mort n'avait pas dit qu'il voulait divorcer.
Absolument.
Et qu'il l'avait caché aux trois potes, chacun va profiter de ce moment de fragilité, David Brécourt, pour dire ce qu'il a sur le cœur. Sans préciser, David, ce qui se passe, parce que c'est un
ressort
effet,
de la pièce.
Exactement, sur votre personnage, tout devient révélateur pour chacun.
Oui, tout à fait,
ils se posent des questions sur est-ce qu'ils aiment vraiment la vie, est-ce qu'ils ont pris le bon chemin, est-ce que les autres savent réellement qui ils sont, est-ce que cette amitié.
Non, puis moi ce que je vais annoncer en tout cas, ce que je vais dire qu'il me reste 10 ans, 10, 15 ans comme l'a écrit Philippe et que j'ai envie d'être enfant, mais j'ai envie d'être heureux surtout et de profiter de tous les moments qui va me rester. Et c'est pour ça que je vais annoncer quelque chose.
C'est embêtant.
On peut faire un quiz, non?
Marshall Ganache.
Ah,
cette pièce sera un succès.
Affirmatif.
C'est déjà un succès.
Ouais. Affirmatif, Nagui. Traiter un thème aussi grave que le veuvage, façon aussi fine que plaisante et émouvante, je tire mon képi 7 étoiles à l'auteur, bravo monsieur, au metteur en scène, bravo monsieur, et au comédien aussi, dans monsieur, bravo monsieur, Lelouch, et David Brécourt, qui en soupirant d'Emma, seront, j'en suis sûr, j'ai pas vu la pièce, absolument épatant. Alors bien sûr, Nagui, depuis le début de ce programme, je vous ai entendu dire, vous aussi, qu'ils étaient formidables, en dépit des délits qu'ils ont commis, de leurs addictions et de la misogynie de Philippe. Mais alors, comment expliquer, comment cette volte-face inouïe, entre oui. le moment où GNB, notre rédac-chef à scoliose, vous a appris qui étaient les invités, et le moment où vous avez commencé à les interviewer. Voilà ce que j'ai entendu dans le bureau de la bande originale. GNB, au pied, couché. Alors qu'est-ce que j'apprends? Tu as invité David Brécourt et Philippe Lelouch. Oui, maître. Je ne pouvais pas inviter en plus Christian Vadim. Dans le studio, il n'y a que 2 sièges réservés aux invités. Mais c'est ton siège que je vais briser sur ton échine de porc. J'en ai rien à cirer de Brécourt et de Vadim. Et encore moins de Philippe Lelouch qui est tellement moins bon et moins sympa que son frère. Mais alors, oh mon maître, oh disciple de Tali, dont Leïla vous expliquera que dans la mythologie, c'est la muse de la comédie. Qui est invité? Fils de chien, tu oses me demander qui est invité? Mais enfin, la seule à tirer son épingle du jeu de cette pochade. Mélanie Page, mais si jamais je l'avais invité, on vous aurait accusé de partialité, maître, de favoritisme marital. Ok, t'as raison, je vais m'arranger pour que Lelouch et Brécourt disent qu'elle est géniale. Que c'est une découverte formidable et qu'elle est excessivement douée. Voilà, messieurs, comment se prépare la bande originale. Une dernière chose... Ne riez pas. Une dernière chose.
Vous êtes vraiment une merde.
Comment tu parles aux invités?
Quand j'ai perdu...
Quand
j'ai perdu Edmond, mon épouse.
Qu'est-ce qu'il y a encore?
En Inde, autant qu'un... Elle me manque tellement. Eh bien, moi aussi... J'ai connu les affres du veuvage. Il y avait 3 veuves, 3 copines qui me courtisaient. Mais la seule qui a réussi à me faire tourner la page, ça a été la veuve Poignet. Vous la connaissez, Nagui.
Ouais,
vous l'avez
ça.
Bien connue pendant ouais. longtemps. Celle-là, bon, mais je vois que le temps qui reste est voilà. écoulé. Alors je vous raconterai ça la prochaine
fois. Très bien, merci. Merci à vous.
La prochaine fois.
C'est Philippe Lelouch, Christian Vadim, David Brécourt et Mélanie Page sont au Théâtre de la Madeleine pendant 60 représentations à partir de ce 19 octobre et ça s'appelle Le Temps qui reste.
Et le point de départ de l'écriture de cette pièce, Philippe Lelouch, c'est quoi? C'est un constat pas en garde à vue cette fois-ci, mais je veux dire...
Non, une
cellule dégrisement.
Le moment où vous avez l'idée, moi j'aime bien savoir toujours à quel moment les idées
naissent. C'était cet été-là quand j'ai dit combien de mois d'août il nous reste et puis il y a des événements dans la vie qui poussent à se dire, ah tiens là je suis obligé de faire un petit point là où j'en suis. Et donc voilà, c'est ça part de là. Mais en fait, j'ai une façon d'écrire qui est très égoïste, c'est-à-dire que je prends pour axe ce qui me préoccupe dans l'instant. Alors, quand c'est boire, fumer, conduire vite, vous l'avez compris ce que c'était, le jeu de la vérité, c'est marrant.
Qui revient d'ailleurs dans la pièce, c'était la notion de on nous interdit tout,
on peut plus rien faire. Bah oui, non, mais ça, bon,
ça colle presque à l'actualité.
Oui, mais ça, je crois que j'en ai pas fini avec ça. Hein. C'est-à-dire que si on commence à rentrer sur tout ce qui m'agace, sur la liberticide,
c'est un gros problème.
C'est épouvantable. Moi, je pense, c'est peut-être l'objet d'une future pièce, c'est nos enfants, là, on prépare des bons révolutionnaires, là, en ce moment, parce que je suis sûr que ceux qui vont avoir 18 ans dans 10 ou 20 ans, vont en avoir ras-le-bol que tout leur soit interdit. Moi, je pense que c'est extrêmement dangereux.
Mais... Non, mais pardon, ils se rendront pas compte que c'était autorisé avant.
Mmh. Ah, si, quand même.
Ah, non.
Si. Il y a quand même des images, tout ça.
C'est tout l'un ou tout l'autre.
Quand on rentre dans une voiture, quand on a plus de 50 ans, qu'on rentre dans une voiture et qu'on n'a pas toujours le réflexe de mettre sa ceinture parce qu'on a, justement, à 18 ans, connu des voitures sans ceinture de sécurité, les enfants qui, eux, ont toujours grandi avec la ceinture, vous dites.
Oui, mais ça, c'est l'exemple d'un bon interdit.
Non, mais il n'y a pas de bon ou mauvais interdit.
Par exemple, moi j'ai revu
le casque à moto, les gants sur les motos, les gamins grandissent avec ce réflexe.
Très bien. Par exemple, je regardais il y a pas très longtemps Le Gendarme à Saint-Tropez, c'est vous dire si je l'avais pas vu.
C'est super drôle.
Bon, et on voit un moment sur le port, la voiture passait. D'ailleurs, il y a comment il s'appelle
Patrice Lafond.
Ils sont à 15 dans une bagnole sur le port et ils disent à la fille de finesse dans le film, allez monte avec nous. Et cette idée de monter à 15 dans une voiture l'été sur sur le port, etc. Dire ah ouais, c'était possible de faire ça. C'était pas, j'ai pas l'impression que c'était fondamentalement dangereux.
C'est pas non plus une grosse liberté de la vie. Quoi,
pas dire, c'est pas mal.
C'est pas mal. C'est
pas mal. Je dois reconnaître qu'il y a des rapprochements qui peuvent se faire dans ces situations-là.
Tu vas pas dans une voiture, tu vas dans une boîte, tu vois, tu trouves d'autres solutions pour te rapprocher.
Pour se mettre à 15 sur une banquette.
Il y en a encore qui montent à 15 dans des bagnoles et qui se tuent.
Oui, bien sûr.
Sur la route.
Après, voilà. C'est un autre débat, là, si on rentre
là-dedans.
Non, c'est, il y a, je pense que, en fait, il y a ce que disait l'autre, la lettre et l'esprit de la lettre. Voilà. Et que l'appliquer la loi bêtement est extrêmement dangereuse pour la santé mentale des gens qui vivent dans le pays concerné. Voilà. Et que, de temps en temps, il faut évidemment des lois, et surtout quand il s'agit de la sécurité de nos jeunes enfants ou même des plus vieux.
Pour en revenir à la pièce, le carpe diem qui sort de cette histoire, c'est que ce soit, la veuve, entre guillemets, quel est son prénom dans
Emma.
La pièce?
Emma.
Voilà.
Emma.
Que ce soit Emma ou que ce soit vous, il y a cette révélation faite au moment du décès du pote en disant « Ok, on a un copain qui est mort, maintenant on va tous dire ». Et vous aimez jouer aussi, comme dans le jeu de la vérité, vous aimez jouer avec comme ça des espèces d'outing, de révélation, disant, notamment l'outing d'Emma, de dire, eh ben écoutez, je l'aimais plus, j'allais le quitter, j'en aime un autre,
et
tout le monde se prend ça comme une claque, quoi.
C'est la grande vertu de l'amitié. Je suis pas sûr qu'on puisse tout dire à la personne qu'on aime, je suis pas sûr. Je dis pas qu'il faut pas le faire, bien au contraire, mais en tout cas, la grande vertu de l'amitié.
Tu vas avoir des problèmes en rentrant à la maison.
Non, la grande vertu de l'amitié, c'est justement de pouvoir tout se dire, et c'est salvateur.
Vous connaissez Carole Bouquet?
Parce qu'elle a à peu près le même point de vue.
Cette semaine, elle nous a dit qu'il fallait mentir dans le couple, donc là, on est dans une thématique.
Non, elle a pas dit qu'il fallait mentir. Non,
elle a pas dit ça.
Elle a dit qu'il fallait pas tout dire.
Il fallait pas forcément dire la vérité.
Et en réalité, je, avec ses amis, et c'est salvateur. C'est très très bon de se sentir soutenu par 3, 4, 5 personnes, si on a la chance de les avoir comme très proches dans la vie. Et que je crois que c'est la vertu de l'amitié, à un moment, de se libérer d'un truc qui finalement, nous pèse. Parce que quand on a comme ça un truc, en ce qui concerne son personnage, on comprend bien que ça devait être pesant. Mais il faut à un moment.
Pas tant que ça, d'ailleurs.
Personnage qui révèle en tout cas aux yeux de tous ses potes sa manière de danser. Je pense que ça c'est l'un des climax de cette pièce d'Amélie Beaucourt. C'est la chorégraphie que vous offrez au public. Là, j'avoue que les rôles de danseurs.
Vous êtes libre de la chorégraphie. Enfin, qui a décidé de la chorégraphie?
Je suis pas très.
Il y a un chorégraphe ou pas?
Il y a plusieurs. On en a essayé plusieurs, mais c'est.
Enfin là, j'ai enfin trouvé, je crois, le. Parce que il faut quand même reconnaître que je le fais danser, mais que ce mec-là. C'est un des mecs les plus mal à l'aise avec son corps que je connaisse.
Non, c'est faux.
C'est mal à l'aise.
Si, c'est grotesque. On n'est pas loin du grotesque.
Il a un contact sévère avec le sol.
Voilà.
Oui, c'est ça. C'est un peu ça, ouais.
Mais c'est très, très drôle. Mais à chaque fois, on le chambre avec ça. T'as bossé ce week-end, t'as choré, etc. C'est vraiment devenu une vanne récurrente.
Il n'empêche que tout le monde m'a dit que, voilà, à chaque fois.
Mais t'es très bien.
Non, mais les gens sortent.
Les gens m'acclament.
Philippe Lelouch n'est pas non plus.
Et qu'est-ce qu'on a ri quand tu danses? Et qu'est-ce qu'on rit quand tu danses?
C'est ça qui marche. C'est l'essentiel.
C'est le but.
Moi, je trouve que vous avez une belle gestion de votre corps.
C'est l'heure de la drôle d'humeur d'Alexis Laurent-Signol. La pièce s'appelle Le temps qui reste, et vous, Alexis, aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du temps qui passe.
Et tout à fait, Nagui. Alors, initialement, je voulais écrire un papier sur le premier anniversaire du mouvement MeToo, Balance ton porc. Je me suis dit, c'est pas obligé, hein. Année sur Stèle, on avait fait un mardi, donc bon. Et puis, de toute façon, je m'étais dit, est-ce que tu as vraiment envie de faire de l'humour autour de ce sujet? C'est pas interdit, mais c'est risqué. Surtout qu'avant MeToo, je vais avoir l'honnêteté de vous dire, j'y connaissais pas grand-chose. Je me souviens un soir, j'avais rencontré une fille qui m'avait dit « Avant qu'on se revoie, j'aimerais que tu saches que je suis féministe ». Ce à quoi j'avais répondu « Ben, c'est pas grave, déjà, sache que ça me dérange pas. Moi, je joue au tennis le dimanche matin, t'auras qu'à faire ton féminisme à la même heure. Ensuite, tu nous prépareras un bon petit plat, puis on mangera ensemble. »
Le monstre.
Bon, depuis, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai même déconstruit mon mode de pensée, mais il y a des gens plus à l'aise que moi sur le sujet, quand même. Chacun son truc. Est-ce que Manuel Valls parle de loyauté? Non. Mais chacun son truc. Donc, parlons du temps qui passe. D'abord, parce que c'est le sujet de la pièce de Philippe Lelouch. Et aussi parce que moi-même, de temps en temps, je vieillis. Alors, on vieillit en continu, hein, je sais bien. Mais on s'en rend pas vraiment compte. On a l'impression que ça vient par à-coup. Moi, depuis quelques années, on me dit systématiquement « monsieur » quand on s'adresse à moi. Double erreur. D'une, je petit-déjeune encore des chocs à pic. Et de deux, je suis non-binaire. Non, mais ça va peut-être vous surprendre, mais c'est vrai, je ne suis ni un homme ni une femme, je suis un tracteur-tondeuse. Alors, Si je vous parle de vieillesse, c'est aussi parce que dimanche dernier, j'ai regardé un reportage de Zone Interdite sur les EHPAD en France.
Ouais. Ouais.
Alors les EHPAD, hein, c'est les maisons de retraite. Mais on a inventé un acronyme parce que maison de retraite en sigle, ça fait MDR. Alors à la limite, M tout seul, on aurait compris, mais MDR, ça passait mal.
Ouais.
Donc, dans mon ignorance de jeune trentenaire, je soupçonnais pas que la fin de vie pouvait être difficile pour les personnes âgées. En France, on a eu Jeanne Calment, décédée à 122 ans. Pendant 15 ans, elle a été la tête de gondole de la vieillesse. Elle était bichonnée comme une voiture tunée. Il y avait un engouement nouveau pour l'archéologie. Tous les ans, elle soufflait ses bougies en direct à la télé. On lui disait, Jeanne, comment vous sentez-vous? Elle répondait, bouh. Ce qui, en Jeanne Calment, voulait dire « Bah, ça farte, les jeunes, et vous, ça gaze ?» Moi, je pensais qu'une maison de retraite, c'était un lieu peaceful et hors du temps, où des vieux inoffensifs draguaient gentiment des minettes de 80 printemps et plus en leur disant « Mademoiselle, il y a moyen d'avoir votre numéro de chambre. » Ou encore « Hé, grand-mère, se faire un bon café. » Eh bien, pas du tout, pas du tout. Nos vieux en bavent, messieurs dames, parce que les aides-soignants sont en sous-effectif et ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Alors, dans le public, les établissements manquent de budget et dans le privé, les actionnaires veulent un maximum de rentabilité pour gagner plus de sous. Mais on les connaît dans le privé. Les clients faibles et dépendants, c'est ce qu'ils préfèrent. Ça, on le sait, on devrait interdire ça. Résultat, les vieux passent des heures la couche pleine à attendre qu'on s'occupe d'eux et les custos doivent préparer 3 repas par jour avec 4 € par personne. Tu fais quoi avec ça? Pour m'y connaître un peu en plat pas cher, même les rouleaux de jambon mayonnaise, tu les sors pas à ce prix-là. Sauf si tu prends du jambon premier prix. Mais à ce moment-là, faut pas oublier le persil, sinon ça manque de goût.
Ouais.
Alors, la médecine progresse et on vit de plus en plus vieux, mais à quoi bon? Ça va peut-être en choquer certains, mais si ça continue, il vaudra mieux mourir d'une crise cardiaque à 80 ans en pleine séance de jardinage plutôt que de finir ses jours dans un EHPAD. Dans les deux cas, c'est triste, mais au moins avec la crise cardiaque, tu gardes ta dignité et t'évites le jambon premier prix. Bon appétit, les vieux. Merci beaucoup.
Merci, Alexandre.
La bande originale, Nadie, sur France Inter.
Pour rejoindre ce que vient de dire notre serial killer, vous insistez sur le fait d'être en santé. C'est-à-dire, il nous reste combien d'été? En forme.
Ah oui, bien sûr. Ouais, tellement hypochondriaque.
C'est le côté, ouais, c'est ça.
C'est ça. Ah oui, moi, c'est terrible.
Si vous êtes hypochondriaque, pourquoi vous fumez? Pourquoi vous buvez?
Oui,
pourquoi,
parce qu'on n'est pas à l'abri de oui.
On a des contradictions,
des
quoi,
contradictions,
internes.
Voilà. Ouais.
La musique,
vous donnez
c'était
combien de mois d'août?
C'est horrible. Je préfère pas compter.
Et votre cardiologue, il vous donne combien de mois d'août?
Il y a de la musique aussi dans cette pièce.
Et si ce soir, on dansait le dernier slow.
Adamo. C'est vrai qu'on fait plus ça.
Ah bah ça là, on rentre dans un autre domaine que je déplore ça terriblement.
Plus de slow en boîte.
Bah c'est une tragédie, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a plus personne dans les boîtes de nuit, moi. Au-delà du fait.
Je sais pas dans quelle boîte vous allez, mais il y a du monde dans les boîtes.
Bah, il y en a plus beaucoup, surtout. Elles ferment les unes après les autres. Ah non. Alors, statistiquement, il y a 60%.
Le mec, il va te sortir des chiffres de stats de boîtes de nuit.
60% de moins qu'en 1985. C'est énorme, 60%.
De boîtes de nuit en moins.
En moins.
Mais où vous êtes allé chercher ces chiffres, monsieur?
Regardez, par exemple, ne serait-ce qu'à Paris, il y en a beaucoup moins.
Disco Mag.
En province, il y en a de moins en moins. Mais c'est normal. Alors, il y a plein de choses qui jouent. Il y a l'interdiction de fumer à l'intérieur. Bon, il y a l'interdiction de boire qui est quand même très prépondérante. C'est-à-dire que si.
La boîte, il n'est pas interdit de boire.
Oui, mais en sortant.
Il faut un SAM.
Oui. C'est quand on a oublié.
Il faut un SAM.
Ouais, il faut un SAM. Ouais. Donc voilà, tout ça est compliqué. Et surtout, en tout cas, je suis sûr.
Quand même.
Je suis
sûr. Son Popper, c'est pas ses Popper.
Oui, mais non, mais il faut qu'il distribue.
On va avoir plusieurs films.
Albert Algo.
LSC, comment il va consommer.
Tu me demandes pour le Popper.
Un Popper imbattable.
Mais voilà, et surtout, pourquoi les garçons allaient en boîte de nuit? Si ce n'est pour les slow. C'était pour draguer. C'est clairement, je connais assez peu de mecs qui disaient chouette, ce soir on va danser.
Il faut reconnaître que comme vous dansez tous les deux, c'est sûr qu'en dansant sur le funk, vous aurez du mal à draguer.
Non, mais bon, parce que toi, t'allais en boîte de nuit pour danser peut-être. Genre, oui, cool, ce soir, je vais aller danser.
Non, mais pour draguer, mais.
C'était quand même bien le show.
J'adorais les sauts. Eagles, Hôtel California.
Voilà.
Formidable.
6 minutes. Alors, quand t'étais pas sûr de ton physique, celui-là, fallait pas le rater.
Ouais. Bah, c'était mon cas.
Parce que c'était le mien aussi.
C'était mon
cas. Mais il fallait parler, tout ça. Il y avait une notion d'effort. Non,
solo de guitare. Solo de guitare. Si tu n'embrasses pas sur solo de guitare,
c'est bon, c'est fini.
Ouais, absolument. Je suis totalement d'accord avec ça. Autre musique présente dans la pièce. Et puis il y a la vanne dont on avait déjà parlé d'ailleurs quand on vous avait reçu pour la création de la pièce.
Jonathan
et Jennifer. Les justiciers milliardaires.
Il y a un gros débat sur les paroles du oui. générique, ça c'est très très drôle.
Bah oui, parce que tout le monde, parce que en fait David nous soutient dans la pièce, que ça fait Jonathan Hart, oh, Jennifer Hart, oh, et non.
Non,
il n'y a pas Jennifer Hart, oh. Ouais. Et on lui dit si, il y a deux fois, puis il insiste là-dessus et on lui donne les vraies paroles.
D'accord, mais comment vous pouvez tenir trois minutes.
Je dis pas que c'est Molière, c'est l'inspiration de Molière.
Trois minutes, c'est même court.
Trois minutes d'un gag sur le.
Je peux faire une heure et demie sur un sujet comme ça et ça peut terminer effectivement en garde à vue. Tout à fait. Non, mais je comprends vraiment.
D'accord.
Ah, ça peut partir en vrille.
Le temps qui reste, c'est extrêmement drôle. Est-ce que vous sentez, avec toutes les représentations que vous avez faites, des différentes réactions à différents endroits, où les gens rient aux mêmes endroits, de la même manière?
C'est ça la magie, c'est que ça rit public souvent aux mêmes endroits, c'est-à-dire que on s'habitue en jouant à ça, avec le quatrième acteur, le cinquième acteur qui est le public, de dire attention, là ils vont rire, donc faut laisser un temps. C'est d'ailleurs très étonnant, on explique ça à votre épouse Nagui.
Mélanie Page.
On dit à Mélanie Page, attention, là ça va rire.
Et elle a féminisme le dimanche matin. Bah,
Non, c'est très étonnant de dire à quelqu'un, attention, là ça va rire. Ouais. C'est des mecs, tu es complètement fou. Non, parce que nous, on sait que ça rit à ce moment-là. Donc, il faut prévoir les temps qu'on va laisser aux gens pour rire.
Le rythme.
On va parler du jeu. Dans les
sur rires, la limitation de vitesse, par exemple, à 80 km/h, les gens applaudissent dans la salle tous les soirs.
Ça, c'est donc du militantisme, ça.
Oui, du poujadisme.
Non,
mais aussi, il y en a qui pourraient dire ça.
J'aime la vitesse, pourquoi pas sur des circuits ou en karting, je reconnais.
Même toi, t'as peur là.
Non, mais je suis conscient. Depuis que je suis papa, je fais super gaffe aux limitations de vitesse. C'est le jour où tout a changé, c'est ça. C'est de dire, on va quand même faire attention.
C'est pour ça que je trouve ça très étonnant que les gens, tout le monde applaudit. Je me dis, mais il y a quand même moins de morts. Donc il est où le problème, quoi? Il y a un problème là-dessus.
Oui, mais on est trop nombreux sur la planète.
Comme les mecs qui ont supprimé les escabeaux,
c'est un système de régulation, en fait.
Mais il y a des gens qui disaient la même chose à l'instauration de la ceinture de sécurité.
C'est vrai.
Il y avait une levée de bouclier.
C'est vrai.
Ça a sauvé des milliers de vies. La réduction de la vitesse, je suis désolé, statistiquement.
On va tous vivre longtemps, mais qu'est-ce qu'on va se faire chier?
Tu vas pas te faire chier parce que tu roules à 80 km/h.
Et j'ai adoré faire de la moto quand je pouvais, à l'époque, sans casque, parce qu'on a le sentiment comme ça d'être en liberté, cheveux au vent et ainsi de suite.
On peut pas
discuter sur le fait qu'il faille mettre un casque à moto. C'est il y a pas de débat. Non mais je vois bien Philippe.
Non mais bon, c'est gênant d'avoir un casque.
Non mais après, t'es beaucoup
mieux.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu nostalgique? Est-ce qu'on l'expliquerait pas comme ça?
Mais si, mais vous connaissez, en fait, ça dépend. Par exemple, en Floride, le casque n'est pas obligatoire en moto. C'est les lunettes qui sont obligatoires parce qu'ils considèrent que de voir c'est plus important que d'avoir la tête protégée. Donc, un mec qui roule sans lunettes peut avoir un PV. Pas un mec qui roule sans casque. Il y a pas plus de morts en moto.
Il y a des règles partout.
Voilà. Donc ce qui veut bien dire qu'elles sont faites en fonction d'un certain nombre.
Aux États-Unis, ils préfèrent mourir par arme à feu. Il y a 35 000 morts par arme à feu tous les ans.
Non, mais vous n'aimez pas les interdictions?
Non, c'est vrai, globalement,
c'est ça. À la base, c'est ça.
Ouais.
Quelle que soit l'interdiction.
Oui, mais je comprends bien qu'il en faut. Je suis pas complètement anard, stupide, mais il y a des.
Pas complètement.
Pas complètement, non.
Philippe Lelouch, Christian Vadim, David Bricourt, Mélanie Page, Le Temps qui reste, 60 représentations exceptionnelles au Théâtre de la Madeleine à partir du 19 octobre. On va parler musique un tout petit peu. Dans votre bande originale, vous écoutiez dans les années 60. David Delpech.
Non, vous n'écoutez pas. 65, c'était compliqué pour moi d'écouter encore.
C'est la musique qui vous renvoie à votre enfance.
Non, puis c'est un petit clin d'œil à Laurette Fugain.
Ouais, moi aussi, c'est mignon. Moi aussi, je pense à Laurette quand j'entends ça.
Parce que j'ai eu la chance de la connaître.
Ouais, moi aussi.
On parlait tout à l'heure de l'école de théâtre que vous aimeriez monter. Dans la famille, il y a aussi un comédien et un directeur de théâtre.
Dans ma famille, mon père comédien, ma mère comédienne, mon grand-père chef d'orchestre, c'était un grand chef d'orchestre.
Ton papa a dirigé le théâtre de Fontainebleau.
Mon père a dirigé le théâtre de Fontainebleau, et j'ai mon petit frère maintenant qui prend la relève de mon grand-père, qui est chef d'orchestre et directeur du festival de Saint-Céré, et il commence à diriger les opéras.
Oh, c'est un très beau festival.
Ça me fascine. Je suis un fan de musique classique et de voir mon petit frère prendre la relève, ça me, à chaque fois, je suis en larmes, quoi.
Ça veut dire qu'à vous deux, vous reconstituez finalement l'itinéraire familial, quoi.
Exactement.
Ouais.
C'est joli.
Non, je suis très sensible à tout ça.
Et donc, naturellement, la scène, c'était une évidence, c'était quoi, enfant?
Oui, enfin, c'était, ouais, oui, c'est-à-dire qu'on...
Pour vous, en tout cas, voilà.
Mon père avait un metteur en scène assez connu qui s'appelait Jean Meyer à l'époque, et papa jouait beaucoup avec lui, et puis il m'a vu dans la rue un jour, en prenant la main de mon père, j'avais 12 ans, et il m'a dit, tiens, ton fils ne voudrait pas jouer dans une pièce de Monterland, La vie de mon père, c'est un enfant, papa m'a proposé, après il m'a dit, ça te plairait de jouer au théâtre? J'ai dit, ouais, ok, on y va, quoi. Et puis c'est parti comme ça, à 12 ans.
C'était par envie, pour faire plaisir, pour...
Par jeu.
Ouais, par jeu, exactement, ouais, c'est ça, par jeu, et puis j'ai... Et puis ça a été...
Le virus était là, ouais.
Ça a été, mais c'était génial, quoi. Dans une pièce pas facile, d'ailleurs. Ils m'ont commencé par du Monterland, c'était ouf.
Ouais, faut comprendre ce qui est dit, dans le texte. Ouais.
Les années 60, pour Philippe Lelouch, c'était les Beatles. Ça joue vraiment à la maison, les Beatles?
Ouais, c'est même le premier album que j'ai acheté quand j'ai eu l'envie d'acheter mon premier disque tout seul, ouais, les sous aussi, ouais. C'était les Beatles, ouais. Enfin, encore maintenant, hein, je crois que c'est imparable, quoi.
Et la scène aussi, elle est présente dans la famille, du côté de maman.
Ah oui, vous savez ça?
Ouais.
Ma maman a chanté. Elle était chanteuse et elle a arrêté sa carrière assez vite.
Ah, je sais pas,
quand elle a rencontré mon père, en fait. Voilà, je crois qu'elle était. Voilà, mais elle avait ce truc-là. Ouais.
Elle chantait où?
Elle chantait sur des scènes françaises. Elle allait signer.
Merci.
Elle allait signer chez Eddie Barclay.
Elle chantait à des mariages. Elle chantait.
Non, vraiment, elle faisait de la scène. Elle avait été chantée en Pologne avec Sylvie Vartan. Etc. Elle représentait la nouvelle scène française.
Génial.
Et au moment de signer avec Eddie Barclay, elle a rencontré mon père et elle m'a fait moi. Et après, je crois qu'elle a arrêté sa carrière sans grand regret, même si elle chante toujours très bien. Mais c'est très émouvant pour moi parce que jusqu'à la fin de ses jours, dès que ma mère chantait, mon père pleurait. Donc je trouvais ça extrêmement, extrêmement beau.
Mais vous chantez bien tous les deux.
Ouais.
Vous et votre frère. Ouais. Ouais.
Mais c'est très étonnant. Donc on se dit, est-ce qu'il y a de la tabisse? Pourquoi Gilles et moi, on a choisi de faire ce métier?
Il y a une oreille, c'est sûr.
Ouais, c'est très étonnant. Ouais,
ouais, c'est clair. David Brécourt, en 96-97, vous écoutiez Michel Berger.
Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps.
On pourrait l'écouter jusqu'au bout.
Tout seul avec le vent.
Ouais, c'est beau ça.
Fan de Berger.
Ouais.
C'est plutôt, d'ailleurs... Oui, cette chanson, c'est 92-93.
Ouais.
Et dans ces années-là, on en a parlé tout à l'heure, c'est Sous le soleil. C'est le rôle du médecin Baptiste Mondino qui vous rapporte pas mal de succès, en fait. Tout d'un coup, il y a une grande notoriété.
C'est un énorme carton, faut pas oublier. Hein, Sous le soleil, c'est un énorme carton.
Ouais.
C'est vu dans le monde entier, en plus.
Ouais, moi, c'était... Bah, de toute façon, je savais pas que ça allait durer autant de temps, d'ailleurs. C'était signé tous les ans, mais comme toutes les séries, d'ailleurs, actuelles.
Ça a duré combien de temps?
Ça a duré 13-14 ans. Mais bon, moi j'ai fait des breaks, je retournais au théâtre. Bon, mais à un moment donné, je suis resté quand même 3 ans. On est bien, on était bien là-bas.
Hein. Là-bas, c'était à Saint-Tropez.
C'était à Saint-Tropez, voilà, toute l'année.
Mais
tu crois que ça lui serait venu à l'idée d'acheter un truc? Mais non, pas du tout. Il dépensait tout son argent.
J'ai fait une connerie, ouais. Ça, maintenant, avec le temps, ils font tous ça maintenant. Mais j'ai vraiment appris à tourner. J'ai appris mon métier, quoi.
Ouais.
C'était une super école.
Parce que
qui m'a desservi énormément.
Pourquoi desservi?
Desservi parce que j'ai une mauvaise connotation. Un peu bas de gamme, Access Prime Time, truc bon, pas terrible. Et j'ai jamais compris parce que c'est une école formidable.
Ouais.
Tourner 8-10 minutes utiles dans la journée, mais c'est
Il faut être efficace.
C'est génial. J'arrive sur un plateau maintenant, je suis vraiment à l'aise, quoi.
C'est là la première fois que vous vous croisez avec Mélanie?
Exactement.
Ouais,
tout à fait.
En sous-soleil.
On s'est croisés à l'aéroport et je crois qu'on a pris une voiture ensemble. Avec un chauffeur.
Et on a fait l'amour. Mais qui fait des réflexions étranges. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, Nagui? Voilà. Fallait que je te le dise.
Avant la première, c'est bien. Il faut évacuer ça avant la première.
Quant à vous, Philippe,
c'était sous-jacent depuis le début.
Non, mais parce qu'il y a toute une bande sous le soleil.
Oh là là, qu'est-ce que tu racontes? Il y a toute une bande.
Non, mais je trouve ça toujours intéressant, 20 ans plus tard, de revoir une série, de se dire, voilà, vous étiez présent, Mélanie était là, il y avait aussi Grégory Fitoussi, voir un peu ce qu'on devient. Est-ce que vous vous suivez entre vous? Est-ce que vous restez copains avec les gens?
Que quelques-uns, oui.
Il y a des soirées sous le soleil, il y a des...
des apéros sous le soleil.
Il n'y a jamais eu de retrouvailles comme ça. Ça pourrait perdurer, l'amitié là-dedans. Ouais. Et là, non, il y a Tonya, avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. C'était vraiment, c'est une fille formidable.
Et 20 ans après, quand vous avez recroisé Mélanie, la flamme est repartie tout de suite.
Directement. Enfin, là, il y a de la compète. Il y a deux autres mecs avec elle. On va pas la lâcher.
Ouais, j'espère bien.
Il y en a bien un de nous trois qui va y arriver.
Puis Nagui, ça le repose, Nagui, pendant ce temps-là. Il est plus à son propos.
Il rentre serein chez lui.
Ouais. Oh, mon amour, laissez-la tranquille. Pour Elton John, c'était ce que vous écoutiez, Philippe Lelouch. Encore un slow.
Ah, mais le Roi Lion. Hein. Oui, ça me...
Simba et Nala.
Oui, ça me rappelle la naissance de mon premier fils, Sam. Voilà, c'était cette année-là. Et j'étais très amoureux de sa maman et très heureux d'être papa. Et cette chanson-là me ramène immédiatement à cette époque-là.
Et une carrière surprenante.
Ouais, c'est une année de transition, on va dire. C'est une période de transition. Vous étiez journaliste, envoyé spécial notamment, reporter. Et c'est lors d'un reportage que tout d'un coup, il y a une ouverture qui...
C'est incroyable, c'est un rendez-vous.
Racontez-nous,
Je fais un reportage, c'était un grand reportage sur les stars du karaoké, dire si. Parce que c'était l'époque où le karaoké arrivait en France, il y avait des mecs qui passaient leur vie là-dedans, donc j'avais proposé à Envoyé Spécial d'aller filmer des types pour qui c'était devenu une vie, le karaoké.
Nagui en faisait partie?
Nagui pas encore.
Non, mais j'ai regardé le sujet, par contre, je me suis dit, il y a un jeu.
Et donc, une fois que j'avais tourné, j'avais tourné un soir chez Castel, parce qu'il y avait un karaoké même chez Castel. Et donc, j'ai pris le micro et j'ai chanté. Puis il y a une dame qui était là et qui me regardait chanter, qui est venue me demander de chanter avec moi. J'ai chanté avec elle. Et elle m'a dit, vous chantez bien, qu'est-ce que vous faites, vous? Et tout ça. J'ai dit, je suis journaliste, mais j'ai peut-être envie de faire autre chose et tout ça. Bon. Et cette dame s'appelle Danielle Guin. C'était un grand agent. Voilà, et elle m'a invité la semaine d'après à aller chanter devant Sandrine Bonner, ce qui était complètement incroyable. C'était l'anniversaire de Sandrine Bonner, elle m'a dit, je voudrais que vous veniez avec moi. Donc je me suis retrouvé à une table d'acteurs, etc. Elle a dit, tu vas voir...
Rigolote, Danielle.
Super rigolote, elle a dit, tu vas voir, Philippe chante super bien, etc. Et puis elle à la fin de cette chanson, on était en soirée tous ensemble, elle m'a dit, écoute, je sais pas si tu seras une star, mais ce dont je suis sûr, c'est que t'es un acteur, et si tu veux, je te représente. Voilà, et mon métier est parti.
Et la vie a basculé.
Et là, en écoutant cette anecdote, je sais qu'il y a environ 250 comédiens qui se suicident.
Non, putain, pas possible.
Et le journalisme vous manque ou pas?
Non,
vous
pas trop.
Vous y repensez?
Oui, l'écriture, parfois, c'est-à-dire que il m'arrive d'avoir un regard de journaliste et d'avoir envie d'investigation sur des sujets précis. Maintenant, j'ai fait mon métier à la télévision et la télévision reste du spectacle, y compris quand on faisait de l'info, en tout cas à mon époque.
Reparlons du temps qui reste, cette pièce au Théâtre de la Madeleine à partir du 19 octobre. Extrêmement drôle sur un sujet triste qui est la mort. Et c'est vous, Francis Lelor, qui allez nous expliquer pourquoi. Bonjour et merci déjà de venir à ce micro. Pourquoi on a un rapport assez délicat, peut-être particulièrement en France, avec notre culture, avec la mort? Pourquoi on vit mal?
Oh, je pense que partout dans le monde, on vit la mort quand même pas très bien, puisque d'abord, les premières expériences de la mort qu'on a, c'est la mort de gens qu'on connaît, et donc ça s'est toujours associé à la perte, donc à la peine. Ensuite, souvent, on les voit souffrir, donc c'est la perte, c'est la peine, la mort. Et puis après, bien sûr, c'est l'inconnu. Alors,
donc quand on pleure à mort, on pleure sur soi, plus que sur lui,
oui,
c'est
on
ça.
On pleure sur soi, mais je pense aussi qu'on pleure aussi, parce que c'est des êtres jeunes, sur la vie qu'ils n'ont pas vécue. Ouais. Enfin, donc ça, je crois que c'est universel. Et puis alors, l'inconnu. Alors autrefois, je veux dire, dans nos sociétés, les gens avaient beaucoup plus la foi, donc ils avaient effectivement une construction mentale. Qu'ils pouvaient espérer autre chose. Enfin, encore beaucoup de gens espèrent, c'est pas du tout... Et pourquoi pas, on ne sait pas. Mais maintenant, les pratiques ont baissé, les fois quand même sont moins pratiquées. Enfin, je veux dire, les grandes religions ont perdu de l'influence, globalement, quand même, dans le site occidental. Donc, je pense que la mort est plus vécue comme une perte de vie sans qu'on se dise que qu'on comme a autre une nouvelle, chose
que à comme vivre. Un nouveau voyage, une autre vie. D'ailleurs, ce qui est évoqué dans, ouais. dans la pièce Le Temps qui reste, c'est que il y a d'autres civilisations, d'autres cultures qui en font une fête de ces enterrements, qui dansent, qui chantent, qui oui. s'habillent en blanc et qui voient ça comme d'une manière positive, ce qui n'est
oui,
pas le cas
alors,
chez nous.
C'est vrai, mais nous, les psys appellent un peu ça ce qu'on appelle d'un nom pompeux la formation réactionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que les gens sont tristes parce que la perte, ça fait de la peine où qu'on soit dans le monde. Et que donc, à ce moment-là, on fait d'autres rituels joyeux, on se projette dans un avenir qu'on souhaite aux défunts. Alors, vous savez, il y a les religions où tout recommence, c'est cyclique, hein, le bouddhisme, l'hindouisme, c'est-à-dire qu'après votre mort, vous allez revivre une autre vie. Et puis, les religions monothéistes, alors là, c'est linéaire, c'est-à-dire qu'on a notre vie terrestre, et puis après, ça s'arrête, et puis après, tac, c'est autre chose qui va continuer, mais ça va pas revenir en arrière.
Mais pourquoi, lorsque quelqu'un perd un proche, et qu'il n'est pas dans une souffrance inouïe, ça choque? Pourquoi, quand, si quelqu'un vous dit, voilà, j'ai perdu, un être qui m'était cher, mais c'est normal, on va tous mourir un jour, cette personne n'est pas en train de pleurer, ce qui se passe dans la pièce, pourquoi les autres disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas effondré?
Quand la peur est raisonnée, quoi.
Voilà, c'est ça.
Oui, mais alors, je pense d'abord, c'est parce que nous, on s'imagine effondré, quand on pense aux êtres qu'on aime, et on se dit, si je les perdais, on serait effondré. Mais évidemment, on n'est pas à la place des gens. Et dans la pièce, effectivement, Emma explique très bien que la relation était morte déjà entre eux. Donc elle perd effectivement quelqu'un pour qui elle avait de l'attachement, mais pour lequel il n'y a plus de relation amoureuse. Donc ça se comprend.
Oui, on peut pleurer la mort de quelqu'un avec qui on n'a pas de relation amoureuse.
Quand t'aimes plus, on n'en parle plus, basta.
Non, moi je ne pleure pas.
Ils sont odieux. Ils sont odieux. Sous-jacent à tout ça, évidemment, le temps qui passe. Ce sentiment-là que l'on vit tous et que l'on connaît tous, c'est-à-dire que plus on vieillit, plus ça passe vite. Un an, ça ressemble à ce qu'était un mois quand on avait 10-15
ans. Oui, ça passe de plus en plus vite. Mais je trouve ce qu'il y a de très juste dans la pièce, c'est qu'effectivement, la notion de temps qui reste, c'est quelque chose qui apparaît à la cinquantaine quand on commence à percevoir que, on le sait toujours que les choses ont une fin. Mais quand on est jeune, on est plus sensible au temps qui passe. Les vacances sont passées très vite, ou à ce cours ennuyeux passe très lentement. On est sans arrêt dans le temps qui passe. Mais passé un certain âge, alors plutôt la cinquantaine, on commence à voir le bout du chemin. Et il y a un auteur qui dit, mais quand on est jeune, la vie c'est comme un grand rouleau de tissu, on peut se faire 36 sortes de costumes, puis arrive un âge, on se dit, ah mais non, le rouleau n'est pas infini, on peut peut-être se faire encore 2-3 costumes, et voilà.
François Lelor, est-ce qu'il y a une solution pour ralentir, justement, ce temps qui reste?
Pour le ralentir, on sait bien que, si vous voulez, plus vous avez une vie intense, avec des expériences variées et nouvelles, ça va effectivement... Vos journées vont passer vite, mais vous allez avoir l'impression d'avoir un temps très long derrière vous.
C'est-à-dire donc il faut densifier.
Voilà, vous avez l'impression d'avoir une vie très remplie. En revanche, quand on a des vies un peu inactives, qu'on s'ennuie un peu, les journées passent lentement, mais en revanche, après, on a l'impression que l'année est passée très vite, enfin, qu'on n'a plus rien derrière soi.
Et on vit quand même de plus en plus longtemps, grâce à la science. Est-ce que ça, c'est un rêve ou un cauchemar, finalement, de se dire, on a des vies, on va tous, nos enfants seront tous centenaires?
Écoutez, pour moi, personnellement, c'est un rêve, car j'ai envie de voir grandir mon fils en particulier.
Souhaite, ouais.
C'est ce qu'on dit dans la pièce, si c'est de vieillir en forme, moi je pense que c'est une grande chance. Déjà, c'est notre cas par rapport aux gens d'il y a un siècle. On a des vies, à 50 ans, la moitié des gens étaient déjà morts, si vous voulez. Donc, pourquoi ce rêve va se prolonger? Et moi, je me réjouis assez que nos enfants le vivent.
Si c'est pour croupir dans les EHPAD qui étaient décrits tout à l'heure, des conditions sordides, à quoi bon vieillir?
En forme.
C'était la touche optimiste.
Il faut le dire.
C'était un petit peu trop enjoué.
Ça se passait trop bien.
On était là, on était heureux. Et Albert Algout.
Mais Albert Algout peut dire ce qu'il veut. Moi, je suis fan. Voilà.
C'est gentil.
Mais non, mais c'est vrai. Tu te souviens des RFM parce que t'as écouté. Moi, c'est un truc de. Là, il est à l'époque.
Ah, tu écoutais Babubi Bobu.
Évidemment.
Alors, je peux dire que le politiquement correct, là, on était loin.
Très très loin.
Il a fait de la tôle.
Hector et les lunettes roses pour aimer la vie. C'est chez Odile Jacob, signé François Lelor. Merci d'être venu à notre micro. Longue vie à vous.
Merci.
Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Kev Adams s'est fait clasher cette semaine par la presse américaine.
Oui, le Hollywood Reporter, un magazine sur les stars d'Hollywood, la ville américaine qui joue au Scrabble sur une colline, a écrit qu'il n'était pas drôle et que son existence était un mystère dans le pays qui a inventé le bon goût, disent-ils. Le bon goût. Mais ces gens ont-ils seulement écouté un jour cette émission?
Salaud. Ça sera après les infos de midi.
Et la bande originale, merci de nous rejoindre. Laïla Kadoumounadi est là.
Bonjour à tous.
Daniel Morin, Albert Algout,
bonjour.
Tanguy Bassureau,
bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Et nos invités, David Brécourt et Philippe Lelouch. Au théâtre, ils ont la chance de jouer avec Mélanie Page, Christian Vadim, Philippe Lelouch, David Brécourt. Ouais, je fais le truc à l'envers maintenant.
Allez-y pour Mélanie
60
Page.
60 représentations exceptionnelles.
Est-ce qu'ils vont tenir les 60?
Non, ils ont de la chance, c'est une fille bien déjà.
Ouais, ouais,
à la base,
ça, c'est vrai.
À la base, c'est une fille bien. Au théâtre de la Madeleine, donc dès le 19 octobre.
On précise quand même que c'est ton épouse, hein, pour ceux qui nous rejoignent.
C'est plus que ça, c'est la femme que j'aime.
Voilà.
Parce que l'épouse, tu dis c'est un papier, c'est, tu vois.
D'accord. Ah,
c'est entre soi, ça m'énerve.
Voilà.
Non, mais il faut le dire au moins. Comme ça, on sera pas suspecté.
J'ai envoyé une lettre au médiateur.
Comme ça, on sera pas taxé.
Oui, avec nos impôts.
Il fait la promotion de sa femme, c'est une honte.
Elle est
c'est, mais je tiens à préciser que sur scène, elle aura un t-shirt Taratata tous les soirs. C'est un échange.
Et votez Nagui,
Le temps qui reste, cette pièce est extrêmement drôle et pourtant ça part mal, ça part d'un enterrement et malheureusement pour en avoir vécu trop déjà dans ma vie, c'est vrai que les pots d'après enterrement sont des moments où la parole se lâche et où il peut y avoir des fous rires aussi.
Oui, ah bah bien sûr, oui. Ah bah complètement. Oui.
C'est le film de Louis Malle qui résume assez bien ça, c'était quoi avec Bruno Carrette.
Oui,
Miu Miu, c'est un film.
Milou en mai.
Oui, Milou en mai. Bien
extraordinaire.
Ça, ouais.
C'est marrant.
Ouais, non, ce genre de situation, alors bon, évidemment là, c'est il y a une espèce de règlement de compte à Hockey Choral puisque les trois amis ne comprennent pas qu'Emma, jouée par Mélanie Page, ne soit pas en deuil effondré en larmes. Ils commencent d'abord à le lui reprocher.
Ah oui, à l'agresser même.
Et oui. Finalement, son point de vue va faire que chacun va reconsidérer son propre deuil et sa propre vie.
C'est l'avantage d'avoir des amis intelligents, c'est qu'ils peuvent vous faire changer d'avis. Mmh. C'est-à-dire ce que j'adore aujourd'hui, c'est de pouvoir changer d'avis. C'est un truc, j'adore cette idée qu'à 20
donc,
ans...
Donc tu vas mettre la ceinture sécurité, mettre un casque
non, et être prudent. Mais j'adore être convaincu.
Par exemple.
Il y a Dupont-Moretti, que je connais bien...
Que vous mettez en scène.
Et que je vais mettre en scène au mois de janvier, me dit cette phrase toujours qui tient de Bad Inter, convaincre c'est jouir. Voilà, il y a ce truc-là que je comprends très bien. Moi, j'adore être convaincu. C'est-à-dire que tout d'un coup, je tombe sur plus intelligent que moi en face, et qu'il y a des arguments.
C'est pas pareil. Être convaincu, c'est.
Tu peux faire convaincre.
Ouais, c'est ça. Convaincre.
Oui, mais être convaincu aussi, c'est jouissif. Ouais. C'est-à-dire de se dire, ah ouais, j'avais tort.
Ouais.
Voilà. Et ça, moi, j'adore ça. Donc, quand on a la chance d'être entouré d'amis qui ont cette vertu-là, de vous convaincre, donc tout à coup, quelqu'un peut vous dire une phrase et vous faire réfléchir. Et c'est le cas de ces amis-là, des quatre.
Et c'est-à-dire David, oui, pardon.
Non, je t'en prie.
David Brécourt, pour se retrouver sur scène comme ça, et être aussi complice avec Christian Vadim et Philippe Lelouch, ça fait combien d'années d'ailleurs que vous jouez ensemble ?
13 ans. 13 ans.
Avec alors, quelques aérations de temps en temps, vous allez jouer avec d'autres.
Bah, oui.
Et vous faites des crises. Et Philippe, vous faites des crises de jalousie quand vous allez jouer pour d'autres ?
Oh là là, c'est un cauchemar.
Ah bon ?
On dit Philou, écoute, on part, on va s'aérer un an. Voilà, et puis c'est très bien parce qu'on aura beaucoup de plaisir à se retrouver, on va faire autre chose.
Ah ouais, vous boudez vraiment là, Philippe Lelouch?
Non, je boude pas.
Il est comme ça dans l'amitié.
Non, là, vous avez l'œil du boudeur.
Je suis un peu...
Ouais. Exclusif.
Je suis un peu possessif, voilà.
Ah ouais.
C'est très touchant.
Oui, mais à cet âge-là, c'est très très long. Je sais pas si tu vas te revoir.
Et on sait pas s'il y aura une prochaine année.
Non, bah ça, je prends des risques. Hein.
Non, mais c'est que du plaisir.
Et ce fonctionnement en bande, c'est par confort, par envie?
C'est
par...
comme une
non,
troupe.
Alors, il y a un peu de ça.
Ouais.
C'est évidemment que c'est pour moi une zone un peu de confort, parce que je connais très bien ces acteurs-là, et que je sais que ce que je vais écrire, ils en auront la musique immédiatement. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on se repose sur... Moi, on a tous très très peur, la veille d'une première et tout ça, de se dire cette fois-ci je me suis trompé. Je leur ai dit 20 fois. Hein. À chaque fois, je leur dis, depuis le jeu de la vérité, je leur dis cette fois-ci je crois que je me suis raté. Et ils le pensent. C'est-à-dire qu'ils me disent oui, bon, bah c'est un peu moins bien, mais ça va peut-être.
Ah, c'est vrai.
Voilà, c'est-à-dire qu'on a tous ce même trac. Et l'avantage, là, par exemple, ce qu'on a dit à Mélanie Page, épouse d'une célébrité de l'audiovisuel, j'ai dit à Mélanie que j'adorerais, si tant est qu'on ait d'autres projets ensemble, qu'elle rejoigne cette bande-là, parce qu'elle a, et c'est vraiment pas de la flagornerie, je le dis sincèrement, elle a ma musique.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est...
Tout à fait.
Alors David dit, je suis d'accord, ça veut dire que vous devez préempter tous les trois, vous réunissez, vous décidez.
Ouais.
C'est génial.
Ouais. C'est-à-dire qu'on le sent.
C'est une troupe.
Instinctivement. Ouais. On sait, voilà, là, elle nous oblige à jouer une autre partition, on a déjà joué cette pièce. Là, elle a une telle façon d'amener... avec son ton qui ça tombe bien, est encore mieux que celui que auquel j'avais pensé. Elle est obligée, elle vient nous chercher. C'est-à-dire que tout à coup, elle nous regarde, elle nous balance une réplique.
Elle rafraîchit.
Elle nous emmène autre chose. C'est-à-dire qu'on est obligé de jouer avec elle. Ouais. Quoi, voilà. Ça, et ça, c'est vraiment chouette.
C'est pile la semaine prochaine. C'est dans une semaine. Pile au théâtre de la Madeleine, le temps qui reste.
Ouais.
Hâte de voir. En tout cas, ce que ça va donner. Voici Tanguy Passuro.
Où ça?
Là, maintenant, là, tout de suite.
Et lui là.
Tanguy. Kev Adams a vécu une semaine agitée.
Oui, alors qui est Kev Adams pour les auditeurs d'Inter qui tomberaient par hasard sur la bande originale alors qu'ils n'écoutent d'habitude que Laure Adler et sont décalés à cause du jet lag puisqu'ils reviennent d'un voyage de 11 mois au Chili sur les traces de Pablo Neruda avec visite en croate parce que l'espagnol c'était trop simple pour eux. Eh ben, c'est un jeune qui concentre sur sa tête plus de cheveux que n'en a l'ensemble du gouvernement français, en tout cas depuis le départ de Hulot. Il est humoriste, c'est donc un collègue, sauf que lui gagne de l'argent. Et là, il joue dans la suite d'Aladin, Alad 2, jeu de mots, hein, ensuite il y aura Alad 3, on saute, et ainsi de suite, jusqu'à Alad 12, on avait deux plats du jour et un café. Et là, si on était une dictature, le type tout en haut, l'équivalent de Macron, mais en dur, dirait les mecs, vous n'avez pas bossé, ça se voit, allez hop, au poteau. Et derrière, je peux vous dire que le prochain visiteur, ce serait pas Jacouille qui pète, mais une fresque historique sur Louis le Pieux, écrite par Stéphane Bern avec une plume du chapeau de la Queen. Mais Macron a d'autres chats à fouetter, parce que lui aussi passe la moitié de sa vie à boucler son casting. Donc, je le dis, je n'ai pas vu Alad 2 parce que je suis contre le cinéma. Hein, depuis que je sais que les frères Lumière ont été d'ignobles collabos, décorés de la Francisque en 42, donc de Lyon, on retiendra plutôt Le Saucisson et Gérard Collomb. C'est la même chose, hein, mais en moins frais. Non, moi, je préfère regarder la télé qui, elle, fut créée par Michel Drucker. Alad 2, c'est donc un petit film sans prétention conçu pour bouffer du pop-corn en tripotant son conjoint ou en se tripotant soi-même si on est très excité par les tapis persans. Ce qui est gênant puisqu'ensuite à Saint-Maclou, on se fait sortir par les vigiles avant même d'avoir pu glisser son sexe dans un tapis roulé. C'est un succès public. Les salles sont pleines, mais pas critiques, puisque toute la presse a trouvé le film nul. L'Express, La Voix du Nord, même le magazine Maison et Jardin a fait broder un petit coussin sur lequel était écrit « Alad 2, c'est pourri ». Et TéléZ affirme que leur chien est mort pendant qu'on le lui projetait. Et il y a même eu un article du Hollywood Reporter, journal américain, sur le film. On ne sait pas pourquoi, le journaliste avait déjà tout vu. On lui a fait fuiter en avant-première Kirikou tente de passer en Europe sur l'Aquarius avec son daron, la suite de Kirikou, plus le prochain film de Philippe Lachaud sur des potes défoncés partis à Concorde se faire dépuceler par un tigre. Donc il s'est dit, allez, je me fais Alad 2, c'est ça ou le film de Bruno Dumont avec des nordistes qui teasent, enfin des nordistes quoi. Hein, et il n'a pas aimé. Jordan Minzer, le journaliste en question, dit que c'est un film à regarder sans le son. Enfin, c'est super pour qui a un enfant qui crie dans l'appart. Moi, ça fait 4 ans que je ne vois que des trucs sans le son. Hein, donc un live de Carla Bruni, c'est bon, l'ambiance du concert est respectée, mais un Batman, on est moins dans l'action.
Bon, est-ce que le journaliste a trouvé quand même des points positifs?
Oui, il dit que par rapport au 1, il n'y a plus de blagues sur le pénis, alors que pourtant, c'est ça qui était bien. Le pénis, c'est déjà drôle avant qu'on en parle, ce petit machin qui est là sans qu'on s'en serve depuis qu'on a Netflix, qui nous empêche d'être à l'aise quand on croise les jambes, si bien qu'on ne peut jamais avoir de posture de dandy un peu dégénérée. Oscar Wilde n'avait pas de pénis. Non mais moi, si j'étais une femme, je serais morte de rire dès que j'en verrais un, ça gâcherait toutes mes relations parce que les mecs sont très premier degré par rapport à ça. Vous leur dites t'as les épaules voûtées, ils répondent ouais. Vous leur dites t'as du bide, ils répondent je m'en fous, j'aime les pizzas. Vous leur dites tiens, il est rigolo ton pénis, ils se mettent à crier comment ça rigolo, ils se roulent en boule dans un placard en attendant l'arrivée du psy. Ah, mais bref, on va pas parler de pénis toute la chronique, hein. On va encore recevoir des lettres d'auditeurs disant super émission, pour une fois c'était sympa. Et le reporter va plus loin. Il écrit quant à Kev Adams, il n'est pas drôle, tous ses films sont mauvais, comment a-t-il pu rapporter 100 millions de dollars en France? C'est énorme, 100 millions. À titre de comparaison, moi, je rapporte un frisbee si on me le lance. Hein, c'est tout. Hein. Et encore, je ne suis pas sportif. S'occuper de son corps est une perte de temps. Je préfère que ce soit d'autres qui le fassent. Et il ajoute, c'est un mystère, surtout en France, qui est le pays du bon goût. Donc là, stop. Hein, déjà, Macron l'a dit, nous sommes la team France. Quand un de nos gars se fait bâcher par un étranger, on se regroupe et on le protège. Donc vive Kev Adams. Et ensuite, nous, on serait le pays du bon goût. Mais c'est nous qui avons sorti le Gambadou de Patrick Sébastien en 90. Il n'y a plus qu'en France où on met des gens de petite taille à la télé en se disant les nains, c'est marrant quand ils courent, on va leur faire tourner des putains de clepsydres. Nous, le bon goût et le char cochonou sur le Tour de France. Ok, c'est un rempart efficace contre l'islamisme. Enfin, mais des nanas en mini-short qui jettent des saucissons à des mecs en Marseille en train de cuver dans le fossé, ça va. Taxi 5, c'est nous. Les rappeurs en claquettes chaussettes, pardon, c'est nous. Allez voir si Snoop Dogg se travaille en soquette. Non, il a bon goût. La France rêvée par les Américains n'est pas notre France. Eux imaginent un couple d'amoureux qui se bécotent sous la tour Eiffel sur un air de jazz. Nous, on voit quatre mecs en voiture tunée dire à une fille, donne ton 06, fais pas ta chiennasse, sur un fond de Joule. La villa, c'est nous, Pascal Pro. Hein, mais Kev Adams, à côté, c'est Victor Hugo. Donc lâchez-le. Et nous, ici, on a adoré le film.
Oui.
Hein, on l'a dit la semaine dernière qu'on a invité Kev Adams. Hein, on et a Jamel. Bon goût et ou Jamel. Mauvais. Hein, je sais plus, je m'embrouille. Enfin bref, vive la Team France.
C'est dingue ce journaliste américain qui s'en prend à Kev Adams.
C'est lâché totalement.
C'est une critique, après c'est pas grave.
C'est une critique. Non, c'est violent si la critique est comme
très,
ça.
C'est très très violent.
David Bricot, vous êtes sur scène avec, pour le temps qui reste avec l'auteur, l'interprète, maintenant le metteur en scène. Oui. Quelle est la part de liberté d'un acteur? Ami, on l'a bien compris.
C'est compliqué pour moi avec Philippe, parce que souvent, je lui dis reste dans ton personnage, mais c'est difficile pour lui parce que
il fait tout.
Il me regarde. Non, il me regarde. Il voit si j'applique bien tout. Et je sais qu'il fait d'un bon œil et qu'il est bienveillant, je sais très bien. Mais de temps en temps, j'ai envie de voir le personnage. J'ai plus envie de voir Philippe sur scène.
Pourquoi pas déléguer la mise en scène alors ? Pourquoi ? C'était Nicolas Briançon. La fois précédente
ça a été longtemps Marion Sarrault, et là, la fois précédente, ça a été Nicolas Briançon, parce que, tout simplement, à un moment, je considère que mon metteur en scène est mon patron, moi. Mm-hmm. Donc, je me suis dégagé de...
Alors, comment être son propre patron? Comment se
retrouver? Parce que finalement, je suis faux cul dans ma démarche. C'est-à-dire que je prends un metteur en scène qui va faire moins bien ce que je fais moi. Puisque je l'ai le ton de la pièce, puisque je l'ai écrite, je l'entends, je sais comment il faut la jouer, et je connais parfaitement mes acteurs. Donc, au bout d'un moment, de me libérer de ça n'est pas libérateur, parce que quand à un moment il donne de mauvaises indications, je dis mais non, c'est pas ça. Donc voilà. Donc,
c'est pas comme ça que je l'ai écrite, en tout cas, la pièce.
Donc, à un moment, c'est reprendre juste le gouvernail d'un truc qui naturellement vous revient. Parce que je comprends, un auteur qui n'est que auteur, qui ne sait pas, qui ne joue pas et qui ne met pas en scène, il se libère, le texte lui appartient.
Mais
plus
vous pourriez aussi être mis en valeur ou sublimé par quelqu'un qui d'un coup verrait autre chose et vous apporterait, vous nourrirait de quelque chose.
Autrefois, il n'y avait pas de metteur en scène. Guitry et Feydeau étaient leurs propres metteurs en scène. Métier de metteur en scène est assez récent au théâtre.
Ah d'accord, non, je
les
non,
auteurs,
c'était les auteurs qui
décidaient tout le monde.
C'est plus, on aura peut-être plus besoin d'avoir, on va dire, un metteur en place. Ça serait plus parce que oui, effectivement, metteur en scène, je veux dire, Philippe est dans la tonalité, il a une oreille implacable d'ailleurs, et d'une justesse implacable. Donc,
Vous êtes une sorte de huis clos. Vous êtes quatre dans la pièce principale d'une maison de campagne, et c'est plus ces déplacements qui comptent de qui est où, à quel moment.
On est obligé d'un petit peu. Malheureusement, on est obligé d'orchestrer tout ça parce que c'est ça qui est fou d'ailleurs. C'est une danse.
C'est une chorégraphie.
Bien sûr, sur le principe, on pourrait avoir cette même discussion autour d'un bar. Voilà. Bon, sauf que c'est un peu
c'est
chiant.
C'est ce qu'on disait
un
peu jour d'ailleurs.
C'est un peu chiant. Regardez.
C'est ce qu'on se disait. On disait ça dure une heure et demie, et à la fin d'une répète, j'ai fille, mais qu'est-ce qu'on bouge? Mais on peut pas rester. Il y a une soirée normale,
ça n'arriverait pas.
On mettrait une caméra, on nous passerait en rapide, ça ferait un truc de fou pendant une heure et demie.
Non, mais là, c'est un spectacle.
C'est un spectacle. Il y a des conventions, il y a des trucs qu'il faut respecter.
Au Théâtre de la Madeleine, à partir du 19 octobre, le temps qui reste avec Philippe Lelouch et David Bricourt qui sont nos invités. Mais comme on est vendredi, voici le dépôt de bilan de Frédéric Siris.
Bonjour à tous, bonjour Nagui. Alors je rappelle le principe de ma chronique, les saloperies que je vous sors sont compensées par les droits d'auteur que vous touchez quand je rediffuse vos extraits. Ce que vous perdez en crédibilité, vous le gagnez en liquidité. C'est l'heure du dépôt de bilan. Dépôt de bilan qui, une fois n'est pas coutume, ne tournera pas autour de vous, Nagui, car d'une semaine à l'autre, je note que vous prenez mes remarques en compte. Mardi dernier, par exemple, j'ai noté que vous n'aviez interrompu aucun invité.
En raison d'un appel national à la grève mis par plusieurs organisations syndicales pour la défense du service public, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
Alors, certes, le fait qu'il y ait eu grève a peut-être joué. Mais je voulais néanmoins vous en féliciter. Cette semaine, j'aimerais revenir sur une polémique. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'une polémique est un sujet inintéressant, en général lancé à la télé par un chroniqueur qui n'est pas une star, sans quoi il serait pas obligé de passer à la télé tous les jours pour qu'on se souvienne de lui.
Je dis rarement des conneries.
Oui, c'est vrai, merci, merci Michel. J'en veux pour preuve, Omar Sy et Marion Cotillard font un film tous les deux ans et parlent peu. Néanmoins, on se souvient d'eux. Par conséquent, ce sont donc des stars. Pascal Pro et Charles Consigny ouvrent leur bouche tous les jours. On préférerait les oublier, ce sont donc des tares. Pascal Pro, qui est un journaliste sportif, ce qui est une autre manière de dire qu'il a trouvé le moyen de se faire payer pour regarder des matchs le cul posé sur son canapé. Un peu comme Christophe Castaner, qui a mis une cravate pour faire croire qu'il était politicien, ou Gérard Collomb, qui bouge de temps en temps pour faire croire qu'il est en vie. Bref, Pascal Pro, qui en réaction à une chronique de Daniel Morin sur la journaliste ultra tendance réac de Valeurs Actuelles, Charlotte Dornelas.
Les petites cathos d'extrême droite, ça me plaît. Ça me fait chavirer, ça me transporte, ça m'excite.
Ah ouais?
Tu me plais, Charlotte. Oui, tu me plais au-delà du raisonnable. Quand je pense à toi, j'ai des envies de vacances en Autriche, en culotte de peau.
Pascal Pro a demandé la tête de Daniel Morin, ce qui fait de Pascal Pro le premier homo sapiens à vouloir une partie du corps de Daniel Morin. Pascal Pro qui a ajouté que les humoristes de France Inter pouvaient tout dire, tout se permettre, car ils étaient intouchables. Les humoristes de France Inter intouchables? Propos que l'on a plus l'habitude de retrouver dans la bouche de certaines jeunes filles en soirée quand Alexis Rossignol ou Tanguy Bassureau essaient de profiter physiquement de leur notoriété radiophonique.
Alexis Rossignol, c'est pas moi donc.
C'est pas toi?
Moi c'est le Rossignol.
Le Rossignol. Ah, le Rossignol.
Oh, monsieur, c'est son pseudo pour draguer.
Le Rossignol. Alors cela pose une réelle question. Jouit-on à France Inter? D'ailleurs, je pourrais m'arrêter là. Jouit-on à France Inter? Augustin Trapenard, sûrement. Laura Adler. Bref, jouit-on à France Inter d'une forme d'impunité quant à nos propos, car nous ferions partie d'une caste de bobos bienveillants, apôtres du vivre ensemble, vestiges d'un socialisme décati qui n'existe désormais guère plus que dans les chroniques de Guillaume Meurice. La réponse est bien évidemment oui.
Je dis rarement des conneries.
C'est vrai, Michel. Le fait de travailler à France Inter fait automatiquement de nous des gens bien. Sinon, pourquoi Nagui, qui à l'heure qu'il est, pourrait barboter dans une piscine de champagne avec le prince d'Arabie Saoudite et Patrick Balkany, le tout accompagné de Vianney qui leur joue tout le répertoire de Charles Aznavour ou du ukulélé, qu'est-ce qu'il ferait ici à poser des questions avec des mots comptes triples sur les conditions d'accueil des migrants ou les violences faites aux femmes? C'est assurément parce qu'ainsi, il cultive une image de type bien. Un animateur ouvert aux autres, vegan de surcroît, qui fait oublier qu'il porte des mocassins en peau de licorne. Travailler un mois à France Inter en année de travers social, ça équivaut à 9 ans à Médecins du Monde. Alors bien sûr, des esprits chagrins, des jaloux s'offusquent qu'une radio financée par des deniers publics ne soit pas à l'image de la pluralité politique du pays qu'il habite. Car souvent, l'anathème lancé contre France Inter se termine par « Tout ça, c'est avec nos impôts !»
Rassurez-vous, les crèmes sont très efficaces.
Ok Michel, mais mes impôts à moi aussi servent à des choses qui me plaisent pas. Il y a 15 jours, Jean-Marie Le Pen est sorti revigoré de son séjour aux hôpitaux de Paris. Bon, eh bien, je loue la qualité de notre système médical français. Maintenant, je dis que s'il y avait des déficits à maîtriser ou des coupes budgétaires à effectuer, peut-être que c'était la semaine pour y penser. Mais c'est ainsi, je me conforme aux besoins du bien commun qui dépasse de loin mes intérêts individuels. Si j'accepte qu'une partie de mes impôts aille à la protection des pandas, dont je me fous, mais comme Édouard Philippe se fout du Parlement. Alors ces mêmes impôts peuvent bien servir à la protection des gauchistes qui peuplent cette antenne. France Inter, ça n'est pas une station de radio, c'est une réserve naturelle.
Fuck la salle et vive les ours.
Dans le futur, des enfants prendront leur ticket à la maison devenue le musée de la radio pour voir le dernier couple de gauchistes encore en vie en France. Et si Charline et Guillaume font des petits, on pourra les louer au reste du monde comme Yuan Meng, le bébé panda du zoo de Beauval. Donc oui, Pascal Pro à France Inter, nous jouissons d'un traitement différent. Car nous sommes différents. Et entre nous, dire que Daniel Morin est dans le camp du bien, c'est très mal le connaître.
Ouais. Merci Félix.
France Inter, la bande originale.
On vous encourage à aller voir Le Temps qui reste, vous passerez un bon moment, vous rirez, et puis surtout il y aura de quoi discuter, parce qu'on sort pas de cette pièce sans avoir envie d'aller prendre un verre et de parler, voire de changer son regard par rapport à la vie, au temps qui passe, et un petit côté carpe diem.
Faire la liste des choses qu'on va faire dans Le Temps qui reste.
Ça c'est aussi incroyable, c'est incroyable. 60 représentations exceptionnelles avec Mélanie Page, Christian Vadim, Philippe Lelouch et David Brécourt. Quels sont les projets, puisque vous en avez toujours? Philippe, vous êtes le directeur artistique du Théâtre de la Madeleine, le prochain projet, entre guillemets, c'est janvier avec Dupont-Moretti.
Avec Eric Dupont-Moretti, oui, qui a écrit un seul en scène.
À la barre.
À la barre, qui s'appelle Dupont-Moretti à la barre, ce qui lui a valu
Ils ont, y a un certain nombre de jeux de mots sur les affiches, mais voilà. En tout cas, Eric,
j'imagine. À la barre, avec
je l'avais prévenu. Je l'avais prévenu. Hein, c'est, mais
c'est
ça le fait
bon
marrer.
Titre, c'est
oui, oui. Et c'est formidable. Voilà. Là, c'est d'ailleurs incroyable parce qu'on on vend dès maintenant, alors que ça commence que le 22 janvier, je crois, des tickets comme une rockstar. Ça prouve un vrai intérêt des gens pour aller écouter. Un mec intelligent parler, quoi. Il y a pas d'autre.
Et vous allez rattraper le mensonge du service militaire puisque vous allez à nouveau tourner avec Claude Lelouch.
Ouais, j'ai commencé le tournage. Et
la vertu de l'impondérable.
La vertu des impondérables et
népotisme.
Ouais.
Vous lui dites papa sur le tournage?
Non, mais il connaît tout, ça le fait beaucoup rire. Il connaît toutes mes anecdotes. Mais c'est très drôle parce qu'il y a encore des gens, cet été, il est venu dans le sud me parler du film. Là, on avait tous les deux été mangés. Et les gens qui nous voyaient passer, ils disaient, ah, oh, c'est bien de voir le père et le fils en même temps. Il y a plein de gens qui pensent encore ça.
Passionné toujours d'automobile, évidemment, avec Top Gear sur RMC Découverte avec Bruce Joanny.
Et le Tone.
Et quant à vous, David, alors, on me parle de plein de choses, de plein de projets. On me dit, mais non, ça, il veut pas en parler. Alors, je ne dis rien. Voilà. Qu'allez-vous faire?
Je vais peut-être jouer tout seul. Ça fait longtemps que j'ai envie de jouer tout seul. Il m'emmerde tellement.
Grosse infidélité tellement là,
Philippe. Non, là ça va. Ah, ça
voilà, va. J'ai un. Voilà, on m'a.
C'est quoi, c'est un stand-up, c'est.
Non, un texte de Gilles Segal, En ce temps-là, l'amour. Voilà, qui est un texte absolument magnifique. Et il y a un metteur en scène m'a contacté, qui m'a vu à Avignon cet été. Il m'a dit, ça fait 10 ans que je cherche l'acteur. C'est toi. Est-ce que t'es d'accord ou pas? Et je lui ai dit, waouh. Ok, on y va.
Donc, c'est toujours des déclarations d'amour, j'ai l'impression quand même de
ouais, ça fait plaisir.
Écrire une pièce, monter sur scène, jouer la pièce d'un autre.
Ouais.
C'est des rapports, c'est même pas de la séduction, quoi. C'est vraiment,
non,
c'est de l'affect.
Totalement. Mais comment partager la scène tous les soirs, voire plus deux fois dans la même journée, parfois.
Il vaut mieux s'aimer.
Ouais. Faut s'aimer, sinon c'est insupportable. Et là, je serai tout seul. Waouh.
Et vous continuez de faire
comme il s'aime beaucoup, ça va aller.
Vous continuez de faire des voix de pub ou pas, David? Parce que hier, je suis tombé sur une pub et c'était vous.
Ouais.
Vous en faites beaucoup, hein.
Bah oui, je suis pas pour jouer.
Bah, je sais pas pourquoi. Si, c'est pour l'argent.
Mais non, les mecs me contactent à 53 ans, je sais pas pourquoi.
Parce que vous avez l'organe, David.
Oui, peut-être.
Vous l'avez. Des excuses à présenter, David Morin.
Bien sûr, évidemment. Désolé pour les escrocs, alcoolos, anarchos, misogynos, anti-flics, à savoir Philippe Lelouch et David Brécourt. Alors, les vigiles de France Inter ont appelé leurs potes au commissariat du coin. Et vous avez une petite soirée menottes, garde à vous et fessée qui vous attend. C'est ce soir, ça va 23h, c'est chez Nagui qui sera meilleur Starsky et Mélanie déguisée en Marie Pervenche. Désolé pour David Brécourt qui a découvert ce matin que Philippe Lelouch ne l'invitait pas en vacances. Vous savez, moi une fois j'étais en train de crever sous un pont et Nagui est passé par là en carrosse. C'est même pas arrêté, comme quoi les gens sont des chiens. Et désolé enfin pour Nagui qui ce matin a découvert Jules Renard. Alors autant il connaît le rappeur Jules, il admire Bertrand Renard des chiffres et des lettres, mais Jules Renard en une seule personne, jamais.
Mélanie Page, Christian Vadim, Philippe Lelouch et David Brécourt pour le temps qui reste. 60 représentations exceptionnelles au Théâtre de la Madeleine à partir du 19 octobre. Merci les garçons.
Merci de nous avoir invités.
C'est Daniel Penat qui sera notre invité lundi. Tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bon week-end sur Inter.